Alors vous allez me dire, mais comment ça peut se passer? Eh bien, il faut savoir que l'énergie de volonté est magnétique. C'est elle qui attire les unités de vie prêtes. Et quand un être est dans cet état, eh bien, le Père qui est en lui attire à lui les semblables. Ce qui veut dire que vous pourrez être assuré lorsque la Providence vous amène près de vous des êtres qui ont besoin de recevoir l'eau de vie. Je fais allusion à la traversée du désert, c'est-à-dire que lorsque l'être est dans la phase de renoncement, c'est-à-dire la quatrième initiation, il est au désert. Ça veut dire qu'il est dépouillé, il doit se dépouiller de tout ce qui l'attache au non-soi. Et quand un être est arrivé à la maison du Père, symboliquement, il tourne le dos à la maison du Père, conscient que le travail n'est pas encore achevé sur la terre. Et il retourne au désert pour apporter l'eau de vie aux êtres qui sont assoiffés de vie. Voilà l'aventure que les uns et les autres nous poursuivons et nous menons depuis des siècles et des siècles, les amis.
C'est merveilleux d'avoir un fil conducteur parce que beaucoup ressentent le besoin de progresser, certains comment.
Et ils ne savent pas à la fois comment, hein, donc ça implique comment mener à bien, mais ils n'ont pas aussi le plan de réalisation. Voilà. Ce qu'il faut bien saisir, eh bien, c'est que passer d'un champ de conscience à l'autre, c'est forcément difficile. Hein. Un des premiers réflexes, c'est de dire, mais ne vais-je pas perdre mon individualité? Elle vous est acquise à tout jamais, si ça peut vous rassurer. Tout ça, en fait, réduit la dimension de la vie.
Est-ce que ce qu'on appelle l'individualité, c'est la personnalité?
Non, c'est l'unité de conscience qui fait que vous êtes au centre de la perception de le monde qui vous entoure. Mais comme toute vie est issue de l'absolu, toute goutte de vie est l'absolu. Mais on voit bien que pour ça, bah, il faut aller se placer au niveau de conscience voulu. Il est détruit. En fait, il ne sert plus à rien tant qu'il y a dissonance d'union entre les deux feux, de la mère et du père. Mais à un moment donné, bah, comme on dit, il ne sert plus à rien, puisqu'il a, c'est un filtre, en fait. C'est un filtre.
Son rôle, donc, c'est de faire l'intermédiaire entre cette dissonance.
Oui, c'est-à-dire que, comme c'est deux pôles de vie opposés, hein, parce que ce qui est fabuleux, c'est de se dire qu'il y a une vie dans ces myriades de manifestation. Et que l'aventure merveilleuse, c'est qu'il y a la diversité. Il y a la diversité, autrement on serait tous pareils. Bon, eh bien, il s'agit en fait de rassembler des mondes de manifestation qui sont fondamentalement identiques, mais dans l'expression complètement contraire. Et qu'à chaque fois, ce processus crée des expansions de conscience. Soyons rassurés, quand on était dans le règne minéral, la conscience qui nous était donnée, il y avait, mais disons, très limitée. Bon, de règne en règne, ça, et puis là, dans le règne humain, clac. Mais il y a sept règnes, et on peut penser que la dimension de conscience de l'homme céleste, bah, elle est aussi prodigieusement avancée que la proportion entre le minéral et nous. Simplement, élément capital, nous gardons notre propre identité personnelle de conscience. Pour arriver un jour à dire « moi, nous ». Plus « moi, je », mais « moi, nous ». Et bien évidemment, de planétaire en solaire en cosmique, il y a encore progression. Vous vous rendez compte, cette vie au plus haut des cieux que l'on puisse imaginer, qui donne la vie à cet univers, vous voyez le contrat de vie qu'il est en charge. Quand on voit simplement une humanité sur une petite planète, quand on sait que dans une constellation, il y a des milliards d'étoiles, et que dans une galaxie, il y a encore plus d'étoiles, encore plus de constellations que d'étoiles dans une constellation. Mais pourquoi? Mais ce n'est jamais que des vies qui viennent à la manifestation. Donc c'est sans fin, sans limite, puisque c'est des pensées qui s'expriment. Quand on voit la manifestation d'un être humain, niveau physique, on peut dire, tiens, une belle pensée, mais est-ce que l'intérieur vaut l'extérieur? Il peut y avoir des trompe-l'œil là-dedans. Faites attention que parfois un être va prendre un beau véhicule physique, mais qui est autant de pièges pour lui.
Ça peut être un message aussi, saboter.
Ah ben, ça peut être l'authentique, c'est-à-dire que l'intérieur est bien exprimé. Ce qui sera dans le futur, si vous voulez, avec le septième rayon qui vient maintenant, la distinction pour le cinquième et par rapport au quatrième. Hein, les véhicules du cinquième, à partir à peu près de maintenant, vont distinguer en finesse, voilà, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Mais c'est vrai que quand on voit un beau véhicule, on doit toujours se dire, mais qui est à bord ? Si vous avez des questions diverses, même hors sujet, allez-y. Ça fait toujours, je pense, avancer les choses.
Oui, par exemple, les thérapeutes qui veulent travailler sur les chakras. Il y en a qui veulent activer, faire bouger les choses. Je ne sais pas, est-ce que ce n'est pas un peu artificiel et risqué ?
Alors, on verra ça au niveau des centres. Quand il y a progression et une certaine stabilité, il y a sur les plans subtils, je dis bien sur les plans subtils, actuellement en aucune façon sur le plan terrestre. Il y a application, stimulation de tel ou tel centre concerné. C'est ce qu'on appelle la baguette d'initiation. Mais en fait, cela permet de libérer le passage d'une ligne d'énergie. Pour répondre précisément, les deux premières initiations sont données par Maitreya sur le plan astral et le plan mental. Les véritables initiations sont données par le Père lui-même. Et les initiations supérieures par le veilleur silencieux, c'est-à-dire l'âme de Logos planétaire. En d'autres termes, prétendre, s'autoriser à activer un centre, c'est purement et simplement se prendre du karma. Les êtres humains aiment bien s'autoriser. Pour la simple raison, c'est que l'être gère lui-même l'éveil de ses centres. Donc se faire booster, c'est une illusion.
Donc se faire soigner aussi, aller voir un médecin.
Ne confondons pas la médecine énergétique, qui elle est fondamentalement une batterie, le guérisseur, le magnétiseur, qui s'offre comme canal pour recharger, stimuler, réduire telle activité de centre. Et ça n'a en rien une démarche dit d'éveil de centre. Alors, il y a des choses qu'il faut faire tomber. La première attitude quand on est conscient d'être un centre d'énergie, c'est le respect de l'autre. Un guérisseur ne s'autorise pas à soigner le patient. Sa démarche voudrait qu'il demande autorisation à l'être du patient. Autrement, karma. Tout ce qui peut, il y a un risque pour lui de karma. Et notamment, le risque que ce soit un coup d'épée dans l'eau. Si l'agent karmique du patient dit, moi, vous n'avez pas vu les casseroles, terminé, c'est comme on dit, perte d'énergie. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez des magnétiseurs qui vont vous dire, je comprends rien. J'ai des patients, ça marche impeccable, dans les autres, ça passe pas, ça va pas. Il y a deux choses. Ou la possibilité de lever karmique n'est pas là, ou l'être vit dans un lieu très pompant, très chargé, et par conséquent, il est vidé de ce qu'il reçoit. Le respect de la vie. En chacun, il y a la vie. Que vous l'appeliez le père, vous l'appeliez deux, vous l'appeliez la mère, il y a la vie.
Dans le terme thérapeute, il y a quand même l'idée de rétablir un équilibre qui n'y est plus. On est dans le corps, il y a un équilibre, on recharge, etc. Le reste, après, pour l'éveil, tout ça au niveau des yogas, en faisant des choses, c'est là où les gens qui font ça, activent, ou sont censés activer les centres, etc.
Vous savez ce que je vous fais, moi, là, hein? Je vous fais faire du yoga, du Raja Yoga, de l'Agni Yoga et du yoga de synthèse. Vous n'êtes pas aperçu? Voilà, je vous entraîne au yoga de synthèse.
Un jour, on m'avait raconté une anecdote, quelqu'un comme ça qui utilisait des fleurs de bar et tout ça, les fleurs de Bach. Et on lui avait dit, quelqu'un qui est une voyante, etc., qui fréquentait, lui avait dit, il faut faire très attention à ces choses-là, parce que ces remèdes-là, ça met des fois en activité les centres et qu'ils ne sont pas forcément préparés pour ça. Et ça peut des fois faire plus de dégâts qu'autre chose.
Le fils est par définition l'équilibre entre la mère et le père. Et par conséquent, il faut faire attention à l'excès. Soyons basiques. Il m'arrive de voir maintenant très fréquemment dans les maisons où j'interviens des pierres de sel. Or, il faut savoir que c'est tellement puissant que pas plus d'un quart d'heure par jour. Autrement, vous allez générer dans votre organisme des déséquilibres. C'est la même chose que si vous prenez le soleil abusivement. La démarche du fils, c'est d'être à l'équilibre. Alors, effectivement, quand on touche à des substances comme les essences, c'est puissant, hein. Il faut être respectueux. Ensuite, on n'est pas infaillible. On peut se tromper. C'est le principe même de la liberté. Mais il faut veiller à être authentique. C'est-à-dire veiller à ce que notre mental ne soit pas là, biaisé. Il faut prendre le serpent et puis crac, comme ça.
Juste une question de vocabulaire. Entre activation et ouverture de chakra, est-ce que c'est pareil ou est-ce que c'est...
Comme je vous l'ai souligné tout à l'heure, oui. Le fait que vous suiviez le déroulement de notre échange, oui. Le fait que vous ayez la possibilité de tenir le fil de lumière, donc le fil conducteur, cela s'appelle, parce que c'est de nature spirituelle, voire de toucher à l'aspect divin de l'énergie, cela s'appelle une méditation. C'est donc de faire un usage en continu de l'énergie de nos corps subtils. À partir de là, ce processus s'inscrit dans l'équilibre naturel. À telle enseigne que votre être intérieur qui vous donne accès, c'est pas votre mental inférieur, eh bien, il y a des moments où il se met en blanc pour relâcher. À partir de là, il faut comprendre que l'énergie suit la pensée. C'est une phrase capitale. L'énergie suit la pensée. Et par conséquent, votre nature de pensée va définir la nature de l'énergie que vous utilisez. Ce qui veut dire que celui qui vous dit « je vais éveiller tes centres », il devrait être en conscience qu'il est un apprenti sorcier et qu'il aura les conséquences de sa démarche. La découverte, c'est que, en conscience de soi, l'être dit « je suis la vie » et, par définition, mon individualité de conscience fait de moi un créateur de manifestation de la vie. Ce que vous concevez en pensée sera en énergie. Explication technique. Votre pensée vient enrichir ou réduire votre respiration énergétique. Ce qui veut dire que votre corps énergétique respire de l'énergie. Votre corps émotionnel respire de l'énergie. Le corps éthérique émotionnel. Même chose de votre être. À partir de là, dans la respiration des 12 secondes, où vous intensifiez l'énergie pranique que vous avez aspirée, et à ce moment-là, si c'est fait comme il faut, selon la source, vous avez de la lumière de substance qui descend. Cela détermine votre futur. Pourquoi ? Les êtres énergie chargés d'édifier les corps. Ils me demandent du rouge vermillon. Ah, il est en bonne démarche de volonté. Moi, je n'ai pas à savoir si c'est bien, c'est mal. Il veut du rouge vermillon ? Je lui amène la substance lumière demandée. A l'inverse, l'être humain qui part en colère, son aura devient rouge sombre. L'être énergie, lui, ne cherche pas à comprendre si c'est bien, si c'est mal. Lui, il doit faire à l'exactitude l'apport de matériaux demandés. Et vous comprenez pourquoi l'être humain se construit son corps physique et ses autres corps de matériaux de basse qualité. Et il connaîtra l'épuration, la maladie.
Alors est-ce qu'il est dangereux de vouloir soulager quelqu'un justement ?
Alors une des 12 observances, c'est son karma, c'est pas mais aimer et donner. La chose qu'il faut éviter, toujours à équilibre, c'est de porter l'autre. Parce qu'il faut l'aider à devenir libre, donc meilleur. On ne peut pas dérober à une demande sincère de l'autre. Simplement, il ne faut jamais lui dire ce qu'il a à faire. À savoir, bon, il ne voit pas clair, ben, il ne voyait que 2 solutions, en fait, il y en a 4. Eh bien, vous lui montrez que ça peut être appréhendé d'une autre façon. Mais c'est à lui à faire le choix. Autrement, karma. Risque de karma.
C'est-à-dire que moi, ma question, c'était en fait, est-ce que quand on parle d'ouverture de chakra,
oui.
J'ai quelqu'un, voilà, un exemple clair, j'ai quelqu'un qui va faire un stage d'ouverture de chakra. Elle se demande si elle va y aller ou pas. Donc moi, ma question, c'était, est-ce que c'est là, effectivement,
alors, oui, alors, attendez, attendez, quand vous me dites allez ouverture, c'est du laya yoga, pas plus.
Donc il n'y a pas de souci.
Ah ben si, parce que si c'est pas accompagné d'éveil spirituel, il y aura blocage. Ce que vous faites là, ce que je vous explique là, oui. Nous sommes dans des unions des corps subtils, le corps manasique, oui. Donc Raja Yoga, oui. Nous sommes dans l'ouverture à l'énergie d'amour, Agni Yoga, et nous sommes dans le yoga de synthèse. Bon, et bien naturellement, tous vos centres sont toutes. Mais ça se fait automatiquement. Vous voyez ? Tandis que là, le risque, c'est que vous forcez, s'il n'y a pas d'ouverture spirituelle, vous forcez l'ouverture. Alors que ben, la vie, étant issue de l'absolu, elle est, comme on dit, conçue merveilleusement. Eh bien, naturellement, quand vous êtes dans le vrai, dans le beau, dans le bien ensemble, vous pratiquez une intensification harmonieuse de vos centres subtils.
Je comprends. Mais là, c'était en fait parce que je pensais à cette amie qui doit faire ce stage-là. Mais apparemment, elle sera accompagnée de personnes qui sont dans ce domaine.
Si elle vous a demandé conseil, vous pouvez, si cela vous interpelle, vous pouvez lui rapporter ce processus, et puis bah, elle fait ce qu'elle veut après, mais elle est en connaissance de cause. Qu'est-ce qui se passe pour, on va dire, l'hindou? L'hindou, en conscience collective, il y a la loi de renaissance, il y a la loi de karma. Vous croyez qu'il met vraiment en application? Botte en touche en disant, je suis éternel, on verra dans la vie suivante. Vous croyez un instant que c'est pas sans conséquence? Pourquoi l'hindou est obligé aujourd'hui de faire des exercices respiratoires? Eh bien, c'est que par sa démarche d'inertie, il atrophie son corps énergétique. Et lui, il a besoin de faire des mouvements respiratoires. Parce que, bah, il s'asphyxie, puisque vous savez que qui n'avance pas recule.
Il y a aussi le facteur climatique.
Non. Ils y touchent. Ils y touchent, mais si vous voulez, chacun a son aspect personnel. Il n'en reste pas moins que d'une façon générale, entre nous, c'est pas plus intéressant que dire « je tiens ma démarche d'éveil, de compréhension et je mets en application » et puis c'est automatique. Quand l'être humain, au moment de la Lémurie, troisième race racine, deuxième partie de cette race racine, il avait à maîtriser son corps physique. Mais à l'époque, c'était pas instinctif tout ça. Hein. Il fallait qu'ils réfléchissent. Mais c'est loin derrière nous. Alors on va encore retourner. Hein. Voilà. À la prochaine fois, si vous le voulez bien.